On va rappeler que les établissements scolaires seront donc fermés un peu partout en France, partout d'ailleurs, partout en France dès demain et au moins jusqu'aux vacances de Pâques. Les colonies et les accueils périscolaires, extrascolaires seront annulés également pendant les vacances. Et bien votre invité ce matin, Patricia Martin, et le psychiatre Serge Tisseron. Je rappelle son dernier livre d'ailleurs, il a pour titre « L'emprise insidieuse des machines parlantes », c'est aux éditions « Les liens qui libèrent ».
Bonjour Serge Tisseron.
Bonjour Patricia. Bon,
fort d'une longue expérience, puisque vous avez beaucoup réfléchi aux effets des écrans et des tablettes sur les enfants, vous allez nous éclairer, je l'espère, en tout cas ce matin, sur la façon dont précisément cette école à distance imposée aux enfants va se passer. Vous, d'une manière générale, vous préconisez des règles plutôt strictes.
Alors, comme tout ce qui est strict, ça s'adapte au cas particulier.
Bien évidemment.
Il faut un cadre pour qu'on puisse improviser.
Dans le dispositif qui est prévu par l'Éducation nationale, il y aura une autonomie, disons, de l'enfant, 3 à 4 heures par jour, et ce, 5 jours par semaine.
Oui.
Alors, ça vous paraît faisable, raisonnable?
Ça me paraît tout à fait faisable, et je dirais même que finalement ce qui arrive est une formidable opportunité pour réapprendre à bien gérer les écrans en famille et notamment savoir si on les utilise par ennui, par désœuvrement ou pour l'intérêt qu'on y trouve. Et alors je crois que les familles vont être confrontées à ce challenge, hein, savoir à quel moment on les utilise, à quel moment on les éteint, à quel moment il y aura des écrans de travail et des écrans de loisirs.
Est-ce qu'il y aura forcément des écrans de loisirs en dehors de ça, puisqu'il n'y a plus grand chose à faire à l'extérieur.
C'est quand même un bon loisir, oui. Et puis savoir aussi à quel moment il y aura des écrans solitaires et des écrans partagés. Et je crois que le fait que beaucoup de personnes se retrouvent en télétravail va leur libérer du temps, le temps de transport, et leur permettre de développer des temps d'écran partagés, ce dont les enfants vont être probablement très heureux et ce dont les parents vont voir aussi l'intérêt, parce qu'ils vont pouvoir plus discuter avec leurs enfants de ce qu'ils verront ensemble.
Est-ce qu'on peut apprendre de cette façon-là, aussi bien qu'en classe? La limite est, paraît-il, que les exercices qui seront proposés donc permettent de réviser, mais pas d'aborder des notions nouvelles, parce que là, il faut un accompagnement pédagogique.
Oui, alors ce qui est bien, c'est que les enfants se sont familiarisés avec leurs nouveaux enseignants depuis septembre, et donc ces enseignants qui vont leur parler via les outils numériques, les enfants pourront se les représenter, ils pourront voir leur visage dans leur imagination, ils pourront entendre leur voix. Et c'est ça, à mon avis, qui va rendre cet enseignement efficace. Ça n'est pas du tout comme un enseignement dans lequel une personne anonyme s'adresserait à l'enfant.
Il y a des classes aussi en visioconférence où on verra les profs. Enfin, il y aura une interaction.
Oui, alors l'interaction va plus ou moins bien fonctionner, mais l'idéal, c'est évidemment qu'elle puisse fonctionner. Il faut bien comprendre qu'un enfant qui va à l'école, il ne va pas seulement pour apprendre des connaissances, il y va pour apprendre une posture par rapport à la curiosité, par rapport au savoir. Et je crois que ça va être toute l'habileté des enseignants de pouvoir continuer à communiquer ce goût du savoir à travers les outils numériques. C'est une expérience, voilà, mais
mais une expérience qui a déjà été testée, parce que la plateforme Ma Classe à la Maison est un dispositif qui fonctionne déjà depuis quelque temps, ça a été testé depuis décembre, je crois, pour des élèves français en Chine. Et apparemment, ça marche bien. Ils sont capables de supporter plusieurs millions, 6 à 7, je crois, de connexions en même temps.
Oui, alors écoutez, croisons les doigts.
Croisons les doigts.
Ce que je voulais dire aussi quand même, c'est que c'est pas la même chose un enseignant qui va s'adresser à des élèves qui le connaissent, et puis ces fameuses machines auxquelles est consacré mon prochain livre dont vous parliez il y a quelques minutes, ces enceintes connectées, ces robots conversationnels qui s'adressent à nous, bien sûr avec une intonation qui imite l'intonation humaine, mais qui n'ont pas de visage, qui n'ont pas d'identité, avec lesquels on n'a pas d'histoire. Et donc aujourd'hui, on parle beaucoup des écrans et des dangers des écrans, il faut bien comprendre que dans quelques années, on va s'apercevoir que ces enceintes connectées sont tout aussi problématiques, même plus.
Mais ces robots, on les utilise déjà pas mal. Vous parlez d'ailleurs dans votre livre, Serge Tisseron, des robots qui sont appelés au Japon à prendre une très grande place dans les soins aux personnes âgées. Est-ce que vous pouvez imaginer, est-ce qu'on peut imaginer qu'ils seront de plus en plus utilisés dans l'éducation des enfants?
Alors, la grande question aujourd'hui, c'est de savoir les robots que nous souhaitons pour demain. Il y a beaucoup d'expérimentations. Nous, à l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots que j'ai fondé, nous disons qu'il ne faut pas envisager des machines qui se substituent aux humains. Et si un jour, des parents pensaient qu'ils vont confier leur éducation à des enceintes connectées, ben, ça serait vraiment que la société s'est totalement déshumanisée. Et il ne faut pas confondre la manière dont un enfant va interagir pendant les semaines qui viennent avec un enseignant via Internet et la façon dont un enfant peut interagir avec une enceinte connectée qui lui parle. Il faut bien comprendre que l'enseignant qui parle à l'enfant, il connaît l'enfant, c'est un enseignant. La machine qui parle, elle a une voix, c'est qui ? Ben, c'est le programmeur qui a mis son idéologie dedans. C'est la leçon du programmeur. Hein, aujourd'hui, si des enfants confient l'éducation de leurs enfants à des enceintes connectées, au moins même très partiellement, ils les confient à des inconnus.
Et cependant, vous rappelez, pardon, dans votre livre, que cette voix de synthèse qui est déjà dans ces enceintes connectées et dans les robots, elle crée un lien affectif qui interagit.
Mais c'est bien pour ça que j'ai écrit mon livre, c'est que nous sous-estimons beaucoup l'importance de la voix dans l'attachement que nous allons avoir avec ces machines. Il suffit d'introduire la voix dans une machine pour qu'immédiatement la relation à la machine devienne différente, parce que la voix, c'est une spécificité humaine. Donc il va évidemment y avoir des modalités d'attachement très fortes à ces machines.
D'intimité même, peut-être, non ?
Pardon ?
Une certaine intimité, peut-être ?
Une certaine intimité. Ces machines vont recueillir beaucoup plus de confidences que nous n'en faisons éventuellement à nos proches. Ces machines, c'est-à-dire derrière ces machines, les programmeurs et les sites dédiés au recueil de nos propos vont accumuler beaucoup plus d'informations sur nous. Vous savez, Google, Amazon, Facebook ne cachent pas leur ambition de faire de ces machines des sortes de chevaux de Troie pour élargir la collecte de nos données personnelles. Aujourd'hui, elle se fait dans des espaces publics, quand nous allons sur Internet, quand nous allons sur nos téléphones mobiles. Demain, elle se fera dans nos chambres à coucher, dans nos salles de bain et dans la chambre de nos enfants.
Et il y aura aussi le côté plus jamais seul. Et ça, évidemment, c'est un danger.
Oui, parce que quand on voit le nombre de gens qui crèvent de solitude. Mais si on n'y prend pas garde, les gens auront l'impression de ne pas être seuls parce qu'ils auront la compagnie d'une machine. Mais la compagnie d'une machine ne remplace pas l'enseignement, la compagnie d'un être vivant. C'est pour ça que l'enseignement à distance repose, encore une fois, sur des êtres humains.
Il y a aussi la question de l'âge de l'enfant, puisque vous parlez de ça aussi. Il y a des balises, que vous appelez des balises, c'est-à-dire des 3 repères. Ans, 6 voilà. ans, 9 voilà. ans, 12 ans.
Oui.
Donc là, on va avoir des enfants de tous les âges qui vont être concernés.
Oui, tout à fait. Mais vous savez, on dit avant 3 ans, pas d'écran. Pourquoi ? Parce que l'enfant a besoin d'interagir avec un humain, les mimiques, la gestualité. Il a besoin de bouger dans l'espace. Il a besoin d'apprendre à se concentrer pour l'intérêt qu'il trouve à une tâche. Il faut bien comprendre que tous ces dangers des écrans qui font qu'aujourd'hui, on ne dit pas d'écran avant 3 ans, c'est exactement la même chose avec les enceintes connectées. Les parents qui croient que leur enceinte va raconter de belles histoires à leur enfant, ils ne se rendent pas compte que, comme pour les écrans, ces enfants vont perdre le goût des interactions humaines, des mimiques, des gestes, des attitudes. Et ça va être très problématique si on n'y prend pas garde.
Et là, qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui sont en train de nous écouter, qui vont donc avoir leurs enfants face à des écrans 4-5 heures par jour pour travailler ? Il faut faire quoi ? Des pauses ? Il faut quand même aller courir la rue ?
Il faut faire un emploi du temps. Il faut faire un emploi du temps, que chaque enfant sache à quel moment il travaille, à quel moment il ne travaille pas. Et puis je dirais quelque chose sur lequel on insiste beaucoup à 3-6-9-12, l'accompagnement. Beaucoup de parents pensent qu'il suffit qu'un enfant ait un jouet pour qu'il ait envie d'y jouer si le jouet a bénéficié d'une publicité positive. Non, il faut qu'un parent joue avec un jouet, surtout si l'enfant est petit, pour que l'enfant prenne le goût de jouer à son tour. Donc comme les parents auront du temps, qu'ils prennent 10 minutes, un quart d'heure pour jouer avec leur enfant, de manière à ce que leur enfant ait le goût de jouer, même quand le parent n'est plus là.
Serge Tisseron, merci. L'emprise insidieuse des machines parlantes, plus jamais seul, c'est au lien qui libère.
Plus jamais seul, c'est un clin d'œil.
Ouais.
Dans une minute, il sera 8 heures.